Bonjour mes frères et sœurs, nous allons ouvrir notre Bible dans Colossiens 3,15 aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te prie que cette parole que je vais annoncer puisse faire du bien à chacun. Merci Seigneur Jésus d'ouvrir nos esprits afin que nous comprenions, pas seulement avec l'âme mais avec l'esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en attendant par lui, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Je vais vous parler encore du rétablissement de toutes choses dont il est question dans Actes 3,21. Le Seigneur Jésus est en train de rétablir son Église, parce qu'elle est malade. Elle est en manque de ce qui lui est nécessaire pour être ce qu'elle devrait être. Vous savez, lorsque l'Église de Jésus-Christ commencera à voir quelle est sa position en Jésus-Christ, quand l'Église de Jésus-Christ commencera à voir ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ, et qu'elle affirmera ce qu'elle croit, au lieu de parler tout le temps de faiblesse, de manquement, d'incapacité, de maladie, de pauvreté, elle redeviendra le corps irrésistible de Jésus-Christ. Eh oui, mes frères et sœurs, nous sommes les membres du corps de Christ. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Oui, elle nous dit ça. C'est ce que la Bible affirme. Nous sommes les membres du corps de Christ. Voyons comment se comportait Jésus quand il vivait dans son corps en Israël il y a environ 2000 ans. Et imaginons que l'Église, le corps actuel de Jésus-Christ, vive comme vivait le corps de Christ habité par le même esprit il y a 2000 ans. Jésus, dans son corps de chair, était un... C'était Dieu manifesté dans la chair. Et l'Église, ça doit être ça. C'est ce que devrait être le corps de Christ actuel. Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ n'était pas un philosophe qui cherchait la vérité, il était la vérité. C'est ce que devrait être l'Église, corps de Christ aujourd'hui. Jésus n'était pas un mystique, il était la réalité, il n'était pas un réformateur, il était un recréateur. Jésus-Christ ne discutaillait pas, il savait. Il n'était jamais pressé, il n'était jamais effrayé, il montrait aucune faiblesse, il n'hésitait jamais. Il était toujours prêt, il était toujours sûr, il avait de l'assurance dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait. Il n'avait aucun sentiment de péché, il n'avait pas besoin de pardon. C'est la position que devrait avoir l'Église aujourd'hui. Nous n'avons pas de... Pourquoi avoir des sentiments de péché, avoir besoin de pardon? Nous avons déjà été pardonnés. Et s'il nous arrive de commettre quelques fautes, nous n'avons pas à demander pardon, mais à confesser notre péché. Et Dieu qui est fidèle et juste, nous purifiera de toute iniquité, n'est-ce pas écrit? Nous sommes déjà pardonnés. Ce que Dieu veut, simplement, c'est qu'on lui dise, voilà, j'ai fait ça. Qu'on lui confesse, qu'on lui dise. Au lieu de ça, l'Église rampe, n'est-ce pas? Je suis pécheur, pauvre pécheur, tout le temps. Dieu doit en avoir marre d'entendre ça. Jésus, dans son corps, il y a 2000 ans, n'avait pas besoin de conseils. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'en est pas de même, puisque nous sommes le corps de Christ? Il ne cherchait pas des conseils. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Il savait pourquoi il était venu, il savait qui il était, il connaissait le Père, Il savait tout ce qui concerne le ciel. Il savait où il allait. Il connaissait l'homme, la femme, il connaissait tout, il connaissait Satan. Il ne lui manquait rien. Il n'avait pas de limitation. Et, mes frères et sœurs, nous sommes recréés en lui. Nous sommes ses membres. Nous sommes son corps. Nous sommes ce qu'il y a de plus visible de Jésus sur la terre. Jésus ne connaissait pas la peur, ni la défaite. Hier soir, quelqu'un m'a dit, « Ah, je me régalais, j'aimerais bien savoir au sujet de ton échec. » Mais quel échec ? Pas d'échec. Il y a des expériences qui nous font grandir, qui nous mènent sur le chemin là où nous devons marcher. Quel échec ? Cette phrase m'a fait réfléchir, et voilà pourquoi je vous apporte ce message ce soir. Jésus ne reculait devant, il reculait pas devant la souffrance, ni devant la croix, il reculait pas. Il était le maître. Lorsqu'il était arrêté, il était le maître. Il était le maître de la situation lors de son procès. Il était tout puissant, cependant il était homme. Nous sommes des hommes, mais le tout puissant vit en nous. Comment ça se fait qu'il y a tant de faiblesse, tant de misérabilisme, tant de... Il est en nous. Nous qui sommes des hommes et des femmes, il est en nous, le même esprit. Nous sommes son nouveau corps. Galates 2:20 affirme, « Christ vit en moi. » Alors maintenant, il faut montrer ça. Paul écrivait aux Éphésiens, qui était un peu timoré, « Je prie le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Éphésiens 3, 14, 17, et que vous puissiez reconnaître la longueur, la largeur, la hauteur, de là, etc., etc. Comment se fait-il qu'on puisse perdre conscience à ce point-là de qui vit en nous ? Combien de chrétiens sont abattus, se laissent avoir, oublient, parce qu'ils oublient qui ils sont. Paul écrivait aux Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Jésus sur la terre attendait ça aussi. Aux Corinthiens, il écrivait, c'est par Dieu le Père que vous êtes en Christ. 1 Corinthiens 1, 30. Vous y êtes ou vous y êtes pas? Toutes ces vérités, mes frères et sœurs, elles sont frappantes, non? Lorsque l'Église timorée commencera à avoir sa position de membre du corps de Jésus-Christ, elle reprendra sa place, celle qu'elle avait dans les Actes des Apôtres, et elle ira de l'avant dans le glorieux triomphe de la foi. Alors, il faut que vous qui m'écoutez, là, vous compreniez votre relation avec Dieu et votre position de personne recréée en Jésus-Christ, et vous devez vous rappeler que vous êtes autorisé à faire usage de son nom. Ce nom maîtrise Satan, ce nom maîtrise les œuvres de Satan, ce nom a été donné également à chaque croyant pour qu'il en fasse usage. Merci Seigneur de bénir ces aliments, au nom de Jésus. On a tellement pris l'habitude de dire au nom de Jésus, les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. Jésus dit, en mon nom vous chasserez les démons, Marc 16, 15. Or si nous pouvons chasser les démons, nous pouvons aussi chasser les maux dont ils sont la cause, non ? Souvenez-vous, Satan est éternellement vaincu. Le problème, c'est que souvent, les théologiens ont été les ennemis de l'Église. Ils ont transformé la vérité en philosophie. Ils ont transformé la parole de Dieu en dogme. Ils ont transformé la parole de Dieu en credo. Au lieu de laisser le Maître nous parler au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible,
Ils l'ont maquillé, ils l'ont arrangé de façon à ce qu'on n'y comprenne plus rien. La Bible nous parle comme si c'était Jésus en personne qui nous parlait. Est-ce que vous croyez ça? Ce qui est écrit dans la Bible a la même autorité que si c'était Jésus présent en face de vous qui vous dise ces choses, c'est la même chose. Le message qui est dans la Bible, il est toujours actuel, c'est pas un vieux machin qui a 2000 ans puis s'est dépassé aujourd'hui, non. Mes frères et sœurs, pour celui qui vit en communion avec Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, c'est une voix qui vient du ciel. Ce que Dieu dit dans la Bible est semblable à Dieu lui-même. Ce que Dieu dit dans la Bible, c'est ce qu'il pense. Or, il ne change pas. C'est sa volonté, ce qui est écrit là. La Bible, c'est une partie de Dieu. Parce que ce qu'il dit demeure éternellement et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus, il y a 2000 ans, était la parole de Dieu faite chair. Elle habitait dans un corps, la parole de Dieu habitait dans un corps. Aujourd'hui, il vit en moi, il vit en vous. Je lis sa parole, je m'en nourris, et plus je m'en nourris, plus elle vit en moi, plus il vit en moi. Lorsque vous possédez davantage, si vous voulez posséder davantage de Jésus-Christ, il faut vous nourrir davantage de sa parole. Si je désire connaître davantage Jésus-Christ, c'est dans sa parole que je le découvre tel qu'il est. Ah, regardez cette Bible. Vous pouvez la tenir dans votre main. C'est la parole de Dieu que vous tenez dans votre main. Si vous la lisez, elle entre dans votre cœur. Ensuite, elle peut sortir par vos lèvres. Vous pouvez la vivre. Vous pouvez agir selon elle, selon ce qu'elle dit. Elle vit en moi. Elle vit en moi. La parole de Dieu, elle est la force de ma guérison. Elle est la nourriture de ma vie, le pain de ma vie. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu en moi. La parole écrite de Dieu est vivante de la vie même de Dieu. Tout ce qu'il est, elle l'est aussi. Je dis la parole de Dieu, elle est ma lumière, elle est mon salut, elle est l'oreiller pour mon repos. La parole de Dieu nous donne le calme au milieu des tempêtes, parce qu'il y a de la confusion, il y a tout ce que vous voulez, bien sûr, vous savez, bien sûr, mais Jésus a aussi connu tout ça. Mais il était calme. La victoire au sein de la défaite se trouve en vous, parce que en vous vit la parole, Jésus-Christ. Et plus vous connaissez de la parole, plus vous connaissez Jésus-Christ. Et la joie peut régner là où se trouve la désolation. Si vous avez la parole en vous, vous apportez la joie là où il y a la désolation. Vous savez, la plus dangereuse habitude que peut développer un chrétien, c'est de considérer la Bible comme un bouquin ordinaire. Il y a des bouquins extraordinaires. Mais la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Cette sorte de chrétien, il mange à toutes sortes de râteliers, et souvent à des mauvais râteliers. Ils lisent des commentaires sur la Bible, c'est pas mal, il y en a des bons. Et en face de la révélation faite dans la Bible, ils émettent des doutes quant à notre rédemption. Alors, souvent, ils ne le disent pas, mais regardez-les, ils chantent des cantiques au sujet de la rédemption et puis ils rentrent chez eux comme s'il s'agissait d'une fable, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du tout un rapport de ce qu'ils ont chanté, de ce qu'ils ont... C'est invraisemblable. C'est pour ça que le chrétien ordinaire ne manifeste aucune hardiesse. et qu'il craint les coups de l'ennemi. Tout cela, ça changerait, mes frères et sœurs, si le chrétien voulait donner à la parole de Dieu écrite la même place qu'il donnerait au Seigneur Jésus s'il le voyait là, présent, en personne devant lui, là. Lisons Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que c'est à moi qui parle, Dieu, là? Oui, bien sûr. Jean 15:7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Est-ce que c'est à moi que Dieu dit ça, ou est-ce que c'est aux trois gueulus qui étaient devant lui il y a 2000 ans? Mes frères et sœurs, c'est à vous. C'est à vous, comme il l'a dit, comme... Écoutez-moi, si vous étiez la seule personne de l'univers, eh bien, toutes ces choses qui sont écrites là sont écrites pour votre seul profit, si vous êtes tout seul. Toutes ces promesses contenues dans ce merveilleux livre qu'est la Bible, c'est votre propriété. Dans le besoin, dites la parole de Dieu, dites-la hardiment. Philippiens 4:19, par exemple, dans le besoin, confessez hardiment, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais faites-le. Quand vous êtes malade, dites hardiment 1 Pierre 2:24. Vous dites, par ses meurtrissures, je suis guéri. Mais dites-le. Maintenez cette chose. Confessez cette chose haut et clair. Et répétez-le. La foi en ce que Dieu dit, c'est la foi en Dieu. La foi en ce qui est écrit dans la Bible, c'est la foi en Dieu. Je rencontre très souvent, parce que je rends témoignage très souvent, je rencontre très souvent des gens qui disent « Oh, j'admire votre foi, j'aimerais bien avoir votre foi. » Mais il n'y a rien de plus facile. Lisez la Bible, croyez ce qu'elle dit tout simplement, prenez-la au mot et vous aurez la foi. L'incrédulité, quant à la parole de Dieu écrite, la parole écrite de Dieu, c'est l'incrédulité envers Dieu lui-même. C'est mettre en doute la parole de Dieu. Et si quelqu'un met en doute votre parole, vous vous sentez un peu vexé, non? Et vous pensez que pour Dieu c'est différent. Nous sommes créés à son image. Si vous mettez continuellement sa parole en doute, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il accomplisse pour vous les promesses qu'il a faites à tous? Il a fait ses promesses à ceux qui croient, à ceux qui lui font confiance. Croyez simplement ce qu'il dit. Dites ce qu'il dit, et vous verrez s'accomplir. Si vous croyez la parole de Dieu, vous dites joyeusement, comme il est écrit, on a lu là tout à l'heure, avec reconnaissance, avec gratitude, vous dites joyeusement ce qu'il dit. C'est cela notre attitude vis-à-vis de ce que Dieu dit. C'est ça qui règle toute affaire. Dites ce que Dieu dit. Satan ne peut pas résister à ça. Il est un ennemi vaincu. Il le sait depuis que Jésus est sorti triomphant du séjour des morts. Il le sait qu'il est vaincu. Satan s'est toujours fortement opposé à ce que l'Église propage cette bonne nouvelle que je suis en train de vous donner là. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons appris le secret de la puissance cachée dans le « Il est écrit », la soumission de Satan est certaine. Et il le sait. Alors dites ce que Dieu dit. Dites ce qui est écrit. Il est envoyé à sa parole et il est guéri. Psaume 107, je crois, ou 167, je ne sais plus, 20. Il est envoyé à sa parole et il est guéri. N'a-t-il pas envoyé sa parole? N'a-t-il pas envoyé Jésus? Jésus n'est-il pas la parole de Dieu? Cette parole qu'il a, qui s'est manifestée il y a 2000 ans, les apôtres ne l'ont-ils pas fidèlement retranscrit dans la Bible? Votre Bible n'est-elle pas aussi la parole de Dieu que la parole de Dieu était la parole de Dieu quand il marchait en terre d'Israël? Mais bien sûr! Alors dites, Dieu a envoyé sa parole et il me guérit. Dites, Dieu a envoyé sa parole et il me guérit. Et puis ensuite, commencez à louer Dieu pour votre guérison. Parce que il faut réaliser que ce que Dieu fait pour un, il le fait pour tous ceux qui veulent le croire. Confessez, c'est-à-dire dites toujours la parole de Dieu, même si vos sens apportent un témoignage contraire. Dites ce que Dieu dit. La parole, Jésus, a toujours la victoire. Toujours la victoire. La parole de Dieu est la meilleure arme du monde contre la puissance du mal. Souvenez-vous dans le désert, lors de la tentation, Jésus, il n'a pas essayé une autre arme que le « il est écrit ». Il a dit « il est écrit » et il citait ce que Dieu avait dit dans l'Écriture sainte. Qu'est-ce que ça a été le résultat? Eh bien, le diable a dû le quitter. Il en a eu marre au bout d'un moment. Et les anges vinrent servir Jésus. Matthieu 4, 11. N'est-ce pas comme ça que ça s'est passé? Si ça s'est passé comme ça pour Jésus, comment croyez-vous que ça doit se passer pour vous? Ne devons-nous pas être les imitateurs de Jésus-Christ? Et vous pensez que vous pouvez être mieux et utiliser d'autres armes que celles que Jésus a employées? Jésus a employé le « il est écrit ». La victoire était complète, mes frères et sœurs. La seule arme employée par Jésus a été la parole écrite de Dieu, ce que nous appelons la Bible. Et encore, en plus, Jésus, il employait l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons les propres paroles de Jésus que nous pouvons employer aussi. Les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, triomphent toujours. Entrez dans ce triomphe. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné des mots clairs pour faire comprendre cette vérité claire que les théologiens se sont amusés à compliquer. Merci Seigneur de m'aider toujours à être aussi clair pour que mes frères et sœurs puissent saisir ces choses et les vivre. Les vivre. Aide chacun et chacune. Merci Jésus. C'est ce que je te demande comme ton apôtre le demandait aussi. Pour ces chrétiens timorés qui avaient oublié cette vérité, ce secret de base. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Au revoir.